Vous écoutez
RMC.
On va parler des informations du jour, mon cher Fabrice.
Oui, c'est qu'il rentre en
vous
Uber.
Vous savez comment je rentre.
Apparemment, il rentre en Uber.
Écoutez, on va parler de l'actualité, notamment de l'OGC Nice. C'est Olivier Pantaloni qui a été nommé entraîneur donc de Nice. Il est nommé à la place de Claude Puel. On rappelle que Nice est sauvé lors de ce barrage face à l'AS Saint-Etienne. On l'avait annoncé peut-être à Lens qui jouait la Ligue des Champions. Il se retrouve avec un club qui a failli finir en Ligue 2. Par rapport à ce qu'il a fait de bien et de très très bien avec Lorient, c'est pas terrible ou vous trouvez que c'est une aventure qui est assez intéressante pour les deux parties?
Enfin, moi, je trouve surtout qu'il y a une hype Pantaloni qui est absolument dingue dans ce mercato, parce que certes, il a très très bien travaillé, mais j'ai entendu parler de lui dans 5 clubs, et je pense que là, c'était le moment pour lui de faire un bon contrat. Donc, le projet de Nice, le problème, c'est que c'est pas seulement sportif, c'est financier. À partir du moment où on a toujours les mêmes propriétaires, que le club n'a pas été vendu et que le projet il reste un peu flou, ben enfin, c'est des coachs qui vont travailler. Sans véritable projection, c'est-à-dire que oui, lui personnellement, il va faire un bon contrat et c'est un bon coach. On peut espérer qu'il travaille et qu'il améliore ce qui s'est passé à Nice cette année. Mais après, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas Pantaloni à Nice, c'est le club de Nice et l'avenir du club de Nice.
Retour donc de Pantaloni à Nice. Il avait terminé son parcours junior à l'OGC Nice et là il se retrouve entraîneur de l'équipe première.
Ouais, il y avait pas mal de possibilités pour lui, hein, pour rebondir après Lorient. On sait que Lorient voulait le conserver à la base. Hein. Ils ont fait une offre, ça a
les joueurs aussi.
Et finalement, il a décidé de partir. On a parlé de Lens, d'autres clubs également se sont positionnés. En tout cas, on tentait de au moins le recevoir en entretien. Je pense notamment au Paris FC. Et lui fait ce choix d'aller à Nice, qui est un peu, comment dire, un choix un peu particulier parce que finalement, il va pas avoir de moyens. Et si j'ai bien compris, il quittait Lorient aussi parce qu'il avait pas d'assurance à ce niveau-là. Donc je suis pas certain qu'il soit mieux loti à Nice qu'à Lorient.
Donc c'est quoi? C'est un choix de dernière minute parce qu'il voyait que finalement les espoirs qu'il avait ne se concrétisaient pas, et notamment à Lens. Donc il s'est dit, il faut absolument que je retrouve un banc. On rappelle qu'il a signé pour 2 ans.
Oui, exactement. Je pense que la chaise musicale s'est pas bien passée pour lui. Il s'est pas assis. Enfin, toutes les places étaient déjà prises. Donc il se retrouve à s'asseoir un petit peu en catastrophe pour pas se retrouver par terre.
Un petit mot également sur les informations concernant la Coupe du Monde. Ça y est, Hervé Renard est arrivé au Mexique. Il a enfin donné sa première conférence de presse, parce que hier on l'attendait, on n'avait pas eu les premiers mots du français. Il a un peu secoué tout ça, hein, parce que effectivement, la Tunisie a largement merdouillé lors du premier match, 5-1 face à la Suède. Et donc là, il y avait besoin de secouer un petit peu les joueurs, visiblement.
Bah, tu vois, je parlais tout à l'heure du fait que c'est une mission, c'est 8 matchs. Enfin, c'est pas seulement 8 matchs, souvent c'est de la prépa avant. Et pour certains sélectionneurs, ça dure un peu plus longtemps quand même. Mais tu vois, Renard, typiquement, le coach sélectionneur, plus que coach sur le long cours dans un championnat avec un club. Et c'est donc pourquoi le fait que ça se passe pendant la Coupe du Monde, c'est évidemment un peu problématique sur la stabilité, le problème de la fédération tunisienne. Mais en tout cas, ça rentre dans le cadre de ces coachs qui savent mieux faire sur ce genre de compétition et de mission que sur des clubs et sur un projet au long cours.
En tout cas, on s'est investi. Il a du charisme, il parle sans crier. Bon, on va voir ce que ça va donner, parce qu'une fois qu'on a eu le bon discours, ça fait pas tout sur le terrain. Mais en tout cas, dans l'investissement et dans le savoir-faire sur ces compétitions-là, il a déjà prouvé sa qualité. Donc je pense que ça peut être qu'une bonne nouvelle pour la Tunisie s'il fallait virer Sabri Lamouchi.
But.
Il va nous l'annoncer en direct, bien sûr, Valentin Jamin. Ce but au bout du bout du bout.
L'ouverture du score pour le Cannes, effectivement, 95e minute de jeu. Et c'est un latéral qui est allé marquer ce but. Je crois que c'est Gideon Mensah qui est allé fermer au deuxième poteau après ce débordement sur le côté gauche. Et le Panama, qui était tout proche de prendre le premier point de son histoire à la Coupe du Monde, puni par le Ghana. Et ce but donc de... Non, c'est pas Mensah, c'est Yirenkij qui a fermé au deuxième poteau, me semble-t-il, pour marquer dans le but vide. Et le Ghana va probablement prendre 3 points très précieux dans cette poule avec l'Angleterre et la Croatie. Il n'y a pas du tout de hors-jeu au départ. Le beau débordement, le centre et le but du numéro 3 qui permet au Ghana d'ouvrir le score 1-0. Il reste une minute dans le temps additionnel.
Il a eu chaud quand même.
Hein. Ouais. Je pense qu'il a été à deux doigts de le rater.
Ah,
parce qu'à la reprise du mollet, il aurait pu passer au-dessus.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les équipes subsahariennes qui se débrouillent plutôt bien. Entre la Côte d'Ivoire qui gagne aussi à la toute fin contre l'Équateur. Là, on voit le Ghana, le Sénégal qui a été performant même s'ils ont perdu 3-1. Mais première période vraiment très encourageante. L'Afrique subsaharienne, je pense que ça va donner quelque chose.
Le Ghana, donc, qui a priori va gagner ce match face au Panama avec ce but dans les arrêts de jeu. Le Ghana qui est aux anges, on le voit là, avec tous les supporters présents.
Carlos Queiroz.
Ouais, Carlos Queiroz qui se retrouve être le sélectionneur du Ghana, effectivement. On parlait effectivement d'Hervé Renard. Ce qui est bien.
Est-ce qu'elle a la chemise blanche? C'est ça la question aussi.
Chemise blanche?
Oui. Toujours.
Toujours. Est-ce que le fait que la sélection, qu'il y ait 48 nations qui jouent la Coupe du Monde, c'est aussi ça qui est important, parce que le prochain match, il est dimanche, donc t'as quand même du temps pour travailler. Les matchs sont très très espacés.
Oui, mais en fait, t'as un moment où t'as un match espacé, c'est vrai. C'est le cas aussi pour l'équipe de France d'ailleurs. Et ensuite,
mais il n'y a pas eu de changement de sélectionneur.
T'as un autre problème, c'est les adversaires.
Oui, par rapport au changement
de sélectionneur. Oui, c'était par rapport au changement de sélectionneur que je te disais.
Oui, c'est un autre problème. Raison. C'est une bonne chose, parce que s'ils devaient jouer trois jours après, ce serait beaucoup plus difficile.
T'as un autre problème,
mais par contre, après, ils vont s'enchaîner très rapidement les matchs.
Et t'as vu, et surtout les adversaires. C'est ça pour
Tunisie,
moi.
Tunisie-Japon.
Japon et Pays-Bas.
Et oui.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème.
Le groupe est très relevé.
La première défaite, ils sont dans un groupe compliqué. Ils ont pris cher, y compris Angola Verrage qui va compter éventuellement pour les meilleurs troisièmes. Et ils prennent Japon très bon au premier match. Et Pays-Bas, qui est quand même un des cadors de cette Coupe du Monde. Enfin, cadors. On va dire des valeurs sûres de la Coupe du Monde.
Il faut faire nul. Nul et une victoire pour espérer passer. Je pense qu'à 3 points, vu la différence de but, ça passera pas.
Alors moi, je pense que ça va pas passer. Mais
bon, on rappelle de toute façon, la Tunisie n'est jamais sortie d'une phase de groupe jusqu'à présent, donc ça serait un exploit. Et pour l'instant, ils sont très mal partis, vu les problèmes en interne et vu aussi le goal average négatif avec cette défaite 5-1 pour débuter la compétition face à la Suède. Le Ghana, donc, qui va a priori s'imposer 1-0 face au Panama. C'est terminé là, ça y est, il a sifflé ou pas encore, Valentin?
Non, pas encore, parce qu'il y a un équipementier qui a des problèmes de maillot. Irene Kirill, buteur, a dû changer de maillot puisqu'il a été déchiré, donc il a un coup franc là pour le Panama. Ouais, on a dû le changer. Donc c'est un jeune joueur, à 20 ans, joueur de North Island. Et donc là, il y a un coup d'envoi qui est donné. Tous les Panaméens qui se sont mis sur la ligne médiane. On est à la 8e minute du temps additionnel. 1-0 pour le Ghana à l'instant. Mais on va jouer encore un petit peu puisqu'il y a eu ce but, il y a eu cet arrêt de jeu. Et donc il va falloir tenir pour les joueurs de Carlos Queiroz. Flo t'en parlait, 4e Coupe du Monde hein, quand même. Il en a fait avec le Portugal, avec l'Iran. Et donc il est co-détenteur du record de Coupe du Monde disputé en tant que sélectionneur. Une dernière touche pour les Panaméens sur la droite, Amir Murillo, l'ancien Marseillais, qui va la mettre directement dans la surface, tête ghanéenne, et on va se bagarrer au niveau du point de corner. C'est bientôt terminé. Il y aura un dernier coup franc. Et t'as raison, Fabrice, avec cette faute là au niveau du point de corner par Senaya. Et le coup franc donc à venir pour le Panama. 98e minute de jeu, 1-0 pour le Ghana, le but de Irene Kiri dans le temps additionnel sur un très bon débordement. Le centre, il était là au deuxième poteau, le milieu de terrain de North Jylland, pour reprendre ce ballon dans le but vite. Vous avez bien vu, il a quasiment tapé du tibia hein, sur sa reprise, donc il a été un petit peu chanceux. Et le gardien est monté, panaméen Mosquera, qui joue en Arabie Saoudite pour ce dernier coup franc. Le coup franc quasiment au niveau du point de corner donc pour les Panaméens qui veulent arracher le premier point de leur histoire. Tiré deuxième poteau, la tête de Mosquera, le gardien justement, ça traîne dans la surface et capté finalement par le gardien ghanéen qui a pris un coup en plus et qui va pouvoir se dégager. Ça part même en bagarre un petit peu, en tout cas en échauffourée, mais le gardien ghanéen a pu se saisir du ballon pour soulager les siens. Adou, qui a remplacé d'ailleurs le titulaire. 1-0 toujours pour le Ghana.
Merci beaucoup Valentin. On rappelle également l'autre score de la journée. Il y avait un choc entre l'Angleterre et la Croatie. C'est l'Angleterre qui s'est imposée 4-2. Portugal, RDC, un but partout. Et vous avez dans une heure l'Ouzbékistan de Fabio Cannavaro face à la Colombie. Merci beaucoup messieurs. Et on rappelle évidemment la très triste nouvelle.
Bonne soirée.
Éric Roy nous a quittés après un long combat face à la maladie. On pense très fort à lui, à sa famille et à l'homme absolument exceptionnel qu'il était, et aux joueurs et à l'entraîneur qui a également réussi.